Vous aimez mieux les disques que la radio?
Mais c'est du podcast! Du podcast!
Oui, mais très bien, je vois très bien.
Tous les invités ont répondu présent.
C'est la bonté même, la générosité.
Nous sommes arrivés à un carrefour historique.
Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie?
Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
Avec rigueur et travail, j'ai réussi à rattraper un retard, je pense, d'autant plus important que mes camarades. Et puis j'ai d'autant mieux réussi parce qu'en fait, j'avais cette rage de montrer que j'avais pas envie de décevoir ceux qui m'avaient ouvert les portes vers cette prépa-là. Je m'auto-censurais beaucoup parce que j'avais peur de l'échec. Je pensais que c'était pas accessible, j'avais pas de modèle. Et cette auto-censure, elle a explosé en vol à partir du moment où on m'a dit « Toi, t'as du talent, peu importe d'où tu viens, on t'emmène, on va te faire découvrir les institutions américaines parce qu'on pense que tu peux revenir en France et partager ces connaissances-là avec tes camarades. » J'avais besoin d'un avis un peu extérieur, objectif un peu grandiose, tu vois, qui te disent genre « Ah, ben, ils ont cru en moi, c'est possible. » Faut faire, mais ça sert à rien de faire si tu fais pas savoir. Et aujourd'hui, pour pouvoir pousser nos politiques à adopter des vraies mesures concrètes qui vont changer la vie des Français, je pense qu'on a besoin d'un soutien citoyen. On a besoin d'impliquer la population française derrière ces propositions-là.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Julie Martinez. Salut Julie, comment tu vas?
Super, et toi?
Ça va super.
Je suis heureuse.
Je suis très content de te recevoir et je suis content que tu sois heureuse du coup.
Dans un superbe lieu, tu me reçois bien.
Exactement, on est au Soli Hotel. Alors pour celles et ceux qui ont vu la série en septembre dernier, on était aussi au Soli. Donc c'est une nouvelle collaboration avec cet hôtel rue Salomon de Causse. On est très heureux d'être dans cette magnifique pièce, finalement très fleurie.
Très fleurie. Magnifique printanière, ça annonce de beaux moments à venir, vivement avril.
C'est ça, vivement le printemps finalement. Et du coup, on va discuter évidemment de ton parcours d'avocate et de France Positive, qui est un laboratoire d'idées dirigé notamment par Jacques Attali. Toi, tu es directrice générale de France Positive et du coup, on aura l'occasion d'en discuter parce que c'est des sujets qui m'intéressent tout particulièrement. Ma première question, par contre, tu ne pourras pas y échapper. C'est on va dire les fondations de ton parcours. C'est dans quel environnement est-ce que tu as grandi ?
Dans un environnement aimant. Ça, c'est sûr. En banlieue parisienne, je viens de Sarcelles. J'ai beaucoup de camarades qui tendent à l'oublier, mais je suis banlieusarde. J'ai grandi à Sarcelles, j'ai fait toute mon école primaire, mon lycée, mon collège en ZEP, en zone d'éducation prioritaire. Donc j'ai eu la chance d'avoir deux parents très présents qui ont toujours pris soin de suivre mes études, mais surtout d'être dans un environnement également très sain dans mes établissements avec des profs engagés républicains qui étaient là par choix parce qu'ils avaient vraiment cette vocation de faire émerger et rendre tous les possibles à tous les citoyens, peu importe d'où on vient, quoi. Donc ça, c'était une vraie chance pour moi. Ça a d'ailleurs forgé, je pense, pas mal de convictions. Et puis un environnement, je dirais, très multiculturel, très diversifié. Avec moi, j'ai des potes encore à Sarcelles qui vivent à Sarcelles et qui sont dans une culture que je kiffe. Et donc un vrai cocon. Ça a été assez difficile de sortir de Sarcelles, très clairement, lorsque j'ai démarré en classe prépa de l'autre côté du périph, à Louis-le-Grand en Cagne. C'est la première fois que j'ai pris conscience que j'étais pauvre et banlieusarde, si tu veux. Donc voilà. Mais sinon, ouais, un environnement très, très aimant, très sain.
Est-ce que tu te souviens de tes premières passions?
Oui. La danse, l'ori et l'anglais. Et je pense que, encore une fois, C'est des passions qui m'ont été transmises. Tu sais, quand, enfin, du coup, j'étais en banlieue, j'avais pas beaucoup de rôle modèle. Et moi, mes rôles modèles, c'était ceux qui, en fait, prenaient soin de nous, ceux qui étaient vraiment présents et qui, pour moi, avaient vraiment réussi et étaient épanouis de l'être. Et bah, mes deux rôles modèles, c'était ma prof de danse et ma prof d'anglais au tout début au collège. Et puis, voilà, donc ça a développé des passions assez fortes. Ouais.
Comment est-ce que tu as vécu tes études, justement, si tes rôles modèles, c'était potentiellement des professeurs?
Ah bah moi, élève de grandeur, si tu veux.
Oui, je vois.
Toujours la FOMO d'être pas au dernier rang avec les potes qui faisaient des blagues, mais toujours au premier rang quand même pour suivre les cours. J'ai toujours été voulu être très bonne élève. Mes parents m'ont transmis le sens du travail, de la rigueur. Et c'est vrai que en fait, c'était un excellent conseil de se dire qu'en fait, il faut travailler dur pour pouvoir s'en sortir. Moi, j'avais un père qui se levait à 4h du matin pour aller taffer, prendre les transports en commun matin et soir. J'étais.
Il faisait quoi comme métier?
Il est informaticien. Okay. Il est informaticien et il travaille à Paris. Et tu vois, tu as une heure de trajet, RERD, Sarcelles, Paris, les galères pour ceux qui nous regardent. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment travaillé très, très, très dur, très intensément pour pouvoir me mettre les meilleures cartouches de côté pour réussir. Et je pense que j'ai été très accompagnée également par des profs qui m'ont ouvert au monde, parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu le... Je pense qu'on manque pas de motivation en banlieue, on manque pas de talent, on manque pas de détermination, on manque en revanche de rôle modèle, de réseau. Et ça, je les ai eus grâce à mes profs. C'est eux qui m'ont ouvert au monde, c'est eux qui m'ont permis de partir après aux US en pleine terminale. C'est eux qui m'ont ouvert à Sciences Po, par exemple, en m'en parlant, en classe prépa, enfin, en montrant d'autres environnements qui n'étaient pas directement accessibles, en fait, parce que j'avais tout simplement pas ça dans mon entourage.
Est-ce que tu penses que le rôle des profs, c'est justement hyper important dans le fait de créer et développer une vocation dans les étudiants?
C'est clé. Je pense que nos professeurs jouent un rôle... absolument formidable sur le territoire, je pense aussi en province, hein, pas qu'en banlieue parisienne. Ils ont, à partir du moment où tu transmets quelque chose, tu transmets aussi un bagage culturel. Tu les vois, moi j'allais par exemple dimanche avec des profs et des camarades au théâtre de l'Odéon. Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. On s'est retrouvés devant des pièces absolument improbables où tu avais Isabelle Huppert en train de pisser sur scène. Quand tu viens de Sarcelles, c'est très, très, très particulier. Mais en fait, ils nous ont ouvert, transmis sur l'autre, sur la culture. Enfin, ils nous ont vraiment ouvert ces portes-là. Et je suis persuadée que ça fait partie également du rôle des profs. Et c'est d'ailleurs un rôle qui les fait souvent vraiment kiffer.
Ouais. Le switch de Sarcelles de l'autre côté du périph', comme tu l'as dit. Comment est-ce que ça se passe pour toi?
Moi, je pars de terminale où je suis élève exceptionnellement douée, soi-disant, brillante. J'ai mention très bien au bac, des 20 partout. J'arrive en classe préparatoire, je suis avec d'autres génies, mais qui en plus ont un bagage culturel que moi, je n'avais pas, je dirais... acquis, parce qu'en fait, j'avais pas les mêmes lectures, j'avais pas les mêmes relations familiales, le même environnement dans lequel tu baignes, parce que t'écoutes un type de musique, tu vas voir telle pièce de théâtre, ça t'est accessible en bas de chez toi, tu vois. Et donc, en arrivant en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand en Hippocagne, donc c'est une lettre classique, j'avais pas fait de grec et j'avais pas fait de latin. Donc, si tu veux, arriver en lettre classique, c'était un petit peu audacieux. Et les deux, trois premiers mois ont été terriblement difficiles. Terriblement difficile, d'une part, parce que c'est toute une méthodologie à acquérir, c'est une charge de travail exceptionnelle qu'on te demande dès le premier jour, et puis il y avait des matières à apprendre que moi je n'avais jamais apprises, alors que mes camarades ils en faisaient depuis 8 ans. Mais avec rigueur et travail, j'ai réussi à rattraper un retard, je pense, d'autant plus important que mes camarades, et puis j'ai d'autant mieux réussi parce qu'en fait j'avais cette rage de montrer que j'avais pas envie de décevoir ceux qui m'avaient en fait ouvert les portes, si tu veux, vers cette prépa-là. Et j'avais des profs qui, moi, à Sarcelles, étaient vraiment derrière, répondaient à mes questions le week-end, enfin, me recommandaient des lectures pour mes DS. J'avais vraiment cette rage de réussir. Donc, ça a mis du temps, mais je pense que ça s'est bien passé.
Ouais, cette détermination, en fait, elle était connectée avec ce que tu avais vécu, tout simplement.
Ouais, tu sais... T'es un peu, tu représentes aussi d'où tu viens. T'as pas envie d'être un énième cas de fail, quoi. T'as vraiment juste envie de, à ton tour, montrer l'exemple. Tu vois, juste revenir dans mon ancien établissement et leur dire, j'ai fait tel parcours, j'ai réussi à telles études. Vous pouvez le faire également. vous fermez pas des portes. Moi, je peux être votre contact aujourd'hui, je peux être votre réseau et je peux vous ouvrir le mien au fur et à mesure. On gravite, tu vois, on rencontre, on s'ouvre. J'avais vraiment envie, juste cette conscience, même, je dirais, un peu morale, tu vois, d'exemplarité. J'avais envie juste de le faire au moins pour les autres et pour tous ceux qui n'avaient pas pu le faire avant. Et ouais. J'étais vraiment très, très déterminée à y arriver.
Qu'est-ce qui se passe à la fin de tes études ? Est-ce que tu projettes directement le métier que tu as envie de faire ? Ou est-ce que potentiellement il y a des moments de réflexion ?
Justement, première année d'Hippocagne, ça se passe dans la difficulté, mais j'y arrive, je suis dans les premiers, je passe en CAGNE, donc c'est la deuxième année de classe préparatoire en lettres classiques. Les premiers jours, je me rends compte finalement que... Enfin, pour moi, la littérature, la philo, les langues, c'est une passion, si tu veux. C'est pas... Ça devenait un peu rébarbatif, ça devenait contraignant et je ne me voyais pas être prof. Et ce qui était un peu une des seules voies de sortie en lettres classiques, c'est là un peu où j'ai peut-être été pas forcément la mieux orientée. Mais moi, je vis de passion, j'étais intéressée par le débat, par les Sciences Po, enfin, par le droit, de ce que j'en avais compris parce que j'avais lu Badinter, parce que j'avais lu de grandes plaidoiries. Et donc, en fait, en plein milieu d'un cours, je me dis, ça me saoule ce cours, je traverse la rue Saint-Jacques et je vais à la Sorbonne pour assister à un cours de droit. Et je me dis, mais c'est trop ça que je veux faire. Même si c'était à l'époque, je crois, un cours de droit des créances qui est quand même le truc le plus ennuyeux du monde. Et donc, je regarde un petit peu en ligne ce que je peux faire tout en gardant ce côté un peu élitiste parce que j'avais réussi à rentrer en prépa. Donc, je voulais pas abandonner, tu vois, ce côté-là. Et je trouve un triple cursus de droit, droit anglais, droit français, droit allemand. C'était mes langues principales, j'étais bonne. Je me dis, bon, il n'y a que 10 personnes retenues par an, c'est pas grave, je tente et je suis prise. Et du coup, je me lance dans des études de droit, mais sans vraiment savoir si je veux être avocate, si je veux être juge. Enfin, tu sais, le droit, ça mène un peu à tout. Ouais, enfin, t'as des journalistes qui étaient avocates et des présidents qui étaient avocats.
Exactement.
Voilà, donc juste par curiosité de la matière, et ça m'a immédiatement plu. En démarrant les premiers cours, ça a été la grande lumière.
Ouais.
Voilà, grosse passion pour les cours de droit.
En parallèle de tout ça, à quel moment tu t'intéresses à la politique ?
Pas encore, je m'y intéresse plutôt d'un point de vue, je dirais, associatif, en m'engageant dans certaines assos, étudiante, enfin, je lis beaucoup les infos, mais j'ai pas du tout un pied, je dirais, en politique. Mon seul pied, plus ou moins politique / diplomatie, c'est mes relations avec l'ambassade des États-Unis en France et le département d'État, parce qu'en fait, au lycée, j'ai bénéficié d'un de leurs programmes qui m'a permis d'aller découvrir les institutions américaines, rencontrer, par exemple, Stephen Breyer, qui était juge à la Cour suprême, Hillary Clinton. Enfin, là, ça m'a ouvert d'autres portes, et c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller en prépa, c'est de dire, en fait, il y a tout un monde out there. Il faut y aller, mais si tu veux, la politique brute, je la connaissais plutôt de lutte de terrain par des assos à Sarcelles ou autres pour résoudre en fait des problématiques qui se posent dans la vie des Français de manière concrète, parce que t'as des assos d'aide alimentaire, parce que t'as des questions de discrimination, t'as des questions d'aide vraiment, tu vois, très très locales, mais j'avais pas un pied du tout en politique ou à une échelle, ouais. Je dirais plutôt... plus élevé, c'est-à-dire de réflexion, de prospective.
Ça se fera progressivement.
Ça se fera progressivement, exactement. Et puis, tu sais, triple cursus, t'as du taf. Hein.
Il faut y aller.
C'était assez prenant.
Ouais. Ce voyage aux États-Unis, c'est ta première fois aux États-Unis ou...
ouais, c'est ma première fois aux États-Unis.
À quel point ça te marque, ce
voyage ? C'est vraiment ça qui m'a donné... qui m'a permis de comprendre que il y avait vraiment une chance pour moi ailleurs qu'à Sarcelles et que j'étais pas vouée déterminée à de petites études ou à moi ce que en fait j'avais une et je pense comme beaucoup de mais pas que des banlieusards comme beaucoup de jeunes français je m'auto-censurais beaucoup parce que j'avais peur de l'échec je pensais que c'était pas accessible j'avais pas de modèle. Et cette auto-censure, elle a explosé en vol à partir du moment où on m'a dit « Toi, t'as du talent, peu importe d'où tu viens, on t'emmène, on va te faire découvrir les institutions américaines parce qu'on pense que tu peux revenir en France et partager ces connaissances-là avec tes camarades et tu vaux le coup. » Et ça, juste avoir quelqu'un qui croit en toi en tout début de carrière ou très jeune, ça m'a permis de... Mes parents croyaient en moi, mes profs croyaient en moi, mais j'avais besoin d'un avis un peu extérieur, objectif un peu grandiose, tu vois, qui te disent genre « Ah, ben, ils ont cru en moi, c'est possible. » Et ça, ça fait sauter le loquet qui était de l'autocensure, finalement.
Ça a toujours plus de valeur et d'impact, justement, le fait d'être validé d'un point de vue externe par...
Ouais, je pense que c'est...
Que finalement, le soutien de nos parents, le soutien potentiellement des
professeurs... Ils sont toujours là, tu vois. Ils seront toujours
c'est
là.
C'est classique et c'est très bien. Et d'ailleurs, tout le monde ne l'a pas, tu vois. Donc, c'est quelque chose de très précieux. Mais c'est clair que quand tu as cette validation de quelqu'un de complètement extérieur à ton écosystème, ça te fait gagner en confiance, ça te fait gagner en légitimité. Et du coup, ce potentiel syndrome de l'imposteur que tu pourrais avoir au tout début, en fait, il se corrige au fur et à mesure, en fait.
Je suis complètement d'accord avec toi. On a vraiment besoin de ça. Et pour beaucoup. Et surtout, à partir du moment où, tu vois, c'était une institution, enfin, c'était département d'État américain, tu te dis, bon, ils investissent pas en toi pour rien. Donc, ça te permet de sortir de toi-même et de faire un petit retour en disant, bon, t'es pas si nul que ça.
Ouais. Et le côté américain, j'imagine qu'il y a aussi... que tu as pu visualiser la différence de culture aussi, d'état d'esprit.
Ouais, c'était assez drôle parce que je suis tombée dans une culture. Donc moi, encore une fois, je venais d'une ville avec une grosse culture, multiculturelle, une grande diversité. Je crois que tu as 98 ethnies différentes à Sarcelles. Souvent avec mes potes, on se moquait, mais j'étais la seule babtou de la photo de classe, tu vois. Et en fait, arriver aux États-Unis, me rends compte que tu as cette diversité-là, qui a ses difficultés aussi. Me rendre compte qu'en fait, les États-Unis, c'est pas que stylé, c'est pas que le American Dream avec, à l'époque, c'était Rihanna, grosse star dans toutes les radios. Ça m'a permis aussi de me dire, je suis fière d'être française et je suis fière de ce qu'on a aussi en France en matière d'égalité des chances, de protection sociale. Moi, tu vas voir des drogués, des SDF, on en a aussi en France et c'est terrible, il faut pouvoir y remédier. Mais voir ce nombre-là dans les rues, divagant, sans aide, voir que c'était le community service qui prenait le relais sur des lacunes institutionnelles parce qu'en fait, les associations s'organisent, les communautés entre elles pour pallier des manques, tu vois, sur le terrain, alors que nous, on a quand même des garanties sociales qui sont très précieuses en France, pas suffisantes, mais qui sont quand même là, ce minimal social n'y était pas, tu vois, aux États-Unis. Et moi, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, il y a cette partie-là très rose, mais il y a aussi cette partie-là très noire, et j'étais très fière d'être française. En rentrant en France, je me suis dit, mais en fait, mon pays, on fait aussi de grandes choses, quoi.
Bien sûr, on a quand même beaucoup d'avantages qu'ils n'ont
bien
pas.
Bien sûr, mais il a fallu que je parte, si ouais. Tu veux,
je pense
à la rencontre d'une autre culture.
Le cas
culture.
De beaucoup de gens, tu vois, de se rendre compte aussi des avantages qu'on peut avoir quand on part dans un autre pays.
Ouais, exactement.
Très fréquent.
Et partager ça, tu vois, avec mes camarades de Sarcelles, leur dire, ça, c'était trop bien. Et ça, c'était différent et je trouve ça pas bien. Ça m'a... Ouais, je pense que c'était un beau partage. Quand ouais. Je suis rentrée, c'était un gros événement. On avait fait un gros événement au lycée, c'était trop sympa.
Tu y étais resté combien de temps ?
On a fait un mois.
Un mois.
Okay. Mais tu vois, le terminal, c'est incroyable. Tu rencontres des gens que tu n'auras jamais... Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont jamais rencontré Hillary Clinton. Encore aujourd'hui, toi, tu as 17 ans.
en vrai, il n'y en a pas beaucoup, je pense.
Tu vas au département d'État, tu vas à la Cour suprême de justice. Ouais. Tu as un juge qui te parle français tellement il est éduqué et cultivé. Ça a eu un très, très gros impact. Aujourd'hui, je suis encore en lien avec l'ambassade des États-Unis. Tu vois, ils nous suivent et je donne beaucoup en retour parce que il en faut plus des programmes comme ça. Il faut que la France aussi, on en a plein, mais il faut investir massivement, je pense, dans des programmes comme ça qui te donnent confiance et qui te permettent de t'ouvrir au monde. Ça, c'est très important.
Pour revenir à tes études, ce triple cursus, comment est-ce que ça se passe ? Parce qu'effectivement, en termes de charge de travail, j'imagine.
Des petits allers-retours encore. J'habite à l'époque chez mes parents. Voilà. Petit Sarcelles à Sas, autre niveau de différence culturelle.
Comment est-ce que tu le vis au quotidien ?
Alors, sincèrement, je le vis beaucoup mieux qu'en prépa parce que je m'épanouis. C'est beaucoup de travail, mais en fait, on n'est que 10, donc on est dans une petite bulle. Ouais. C'est des copines, ça devient des amis de galère. J'étudie le droit français, donc je fais une licence normale avec tous les autres étudiants d'Assas, mais je fais aussi en parallèle, j'étudie du droit allemand. Donc, il y a tout un vocabulaire particulier à s'approprier. Du droit anglais, pareil, c'est une autre culture complètement différente. Mais c'est très enrichissant et surtout, moi, je sais qu'à terme, je vais faire mes masters et post-masters à l'étranger. Et ça, tu vois, ça te permet de t'accrocher. Tu te dis, tout ça, je vais le mettre en application à Berlin, à la Humboldt Université, et je vais aller au King's College à Londres. Alors, King's College, c'était un peu plus compliqué, un peu plus stressant pour moi, parce que je ne savais pas encore comment j'allais payer mon LLM, ce qui est un Master of Law, là-bas. Mais ça se passe très bien, hyper intéressant. Moi, je suis passionnée tout de suite, et du coup, je m'accroche et je pars à Berlin très rapidement.
Donc, à Berlin et à Londres.
C'est ça, à Berlin et Londres. Berlin, j'y passe un an, c'est mon premier master. Ça se passe super bien, très intéressant de plonger dans la culture allemande, de découvrir le droit allemand vraiment de plus près, qui est en fait un droit très mathématique. Tu résous des cas comme tu résous... Enfin, tu ferais des maths, quoi. Et puis, j'arrive à Londres pour mon dernier master, qui, lui, est le dernier avant d'avoir les trois, quoi. Et là, gros choc culturel, complètement différent. J'y vis un an et demi, j'adore. J'y reste travailler au début. Le master à Londres, ça a été aussi un des premiers, finalement, réseaux que je me fais professionnel, parce que c'est un LLM. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des pros qui viennent se spécialiser dans un domaine particulier. C'est là où je commence à toucher au droit du numérique, au droit de la tech, et à une époque où, en plus, on a... des grosses attaques terroristes en France. Et moi, je m'interroge sur l'implication, tu vois, des réseaux sociaux, sur la responsabilité des hébergeurs Internet dans la lutte antiterroriste. Est-ce que, tu vois, ils réagissent assez vite? Est-ce qu'il faut les responsabiliser? Donc, c'est une époque très intéressante pour moi. Intellectuellement, c'est passionnant.
Sur 2014-2015,
c'est ça? Ah, c'est ça. C'est 2014-2015-2016. Ouais.
Ouais, okay.
Et donc, je reste bosser, en gros, à la fin de mon LLM. Je valide les trois masters, je reste bosser pour une entité d'IBM sur le projet Watson, qui, lui, est un projet IA. Donc, je commence un peu en pratique, tu vois, à toucher à ça. Et je rentre passer mon barreau à Paris, parce qu'il faut bien passer le barreau quand même.
Ouais,
après tout ça.
Pour ce métier, tu...
Voilà.
un passage obligatoire.
C'est ça.
Donc, tu reviens en France, tu passes le barreau.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passe après?
Alors, je passe mon barreau de Paris, et puis tu vois, de manière très classique, j'intègre l'école d'avocat. Je ne peux pas me permettre de vivre 6 mois sans argent, donc je fais une alternance chez Watt & Case. C'est le cabinet d'avocats américain, un gros cabinet d'affaires qui m'avait donné une bourse d'études pour étudier à Londres. C'était un concours des juristes d'affaires, il fallait... passer un dossier, pitcher ton projet, répondre à quelques questions. Mais en gros, ils m'ont fait confiance. Soit un autre coup de pouce dont j'ai bénéficié dans ma carrière. Je dois avoir 20 000 euros pour payer mes études, ce qui était, moi, ça m'a enlevé une énorme épine du pied. Ça m'a permis de travailler un peu sur place pour pouvoir vivre. Mais si tu veux, mes études étaient payées, surtout après le Brexit. J'arrivais dans une époque où on n'avait pas les mêmes accords, les frais de scolarité avaient augmenté. Donc merci Watt & Case. D'ailleurs, je rends l'appareil, là, je serai dans le jury pour la 30e... année de la bourse, tu vois. Donc vraiment, on garde des liens aussi très forts. Donc je fais mon stage en droit des nouvelles tech, ma première alternance, si tu veux, dans ce cabinet d'avocats-là. Je touche vraiment, enfin, au fond, c'est passionnant. On est sur, encore une fois, la question de la responsabilité des intermédiaires Internet, en matière de contenu haineux, de tout ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois, de harcèlement, de dénigrement. Donc ça, c'est un sujet qui commence à me passionner à l'époque. Et puis, je finis cette alternance-là et je rejoins le cabinet qui m'a donné ma chance en tant qu'avocate cette fois. Donc, avec un stage final qui s'appelle Baker McKenzie. Je rejoins une équipe formidable en Information Technology and Communication Law. Donc, c'est tout ce qui a trait au contrat IT. Donc, tu vois, ça peut être de la pose de fibre Internet entre Gênes et Bastia, comme de l'envoi de satellites. C'est la gestion des réseaux sociaux. C'est... l'IA, la blockchain, enfin, c'est que des sujets comme ça très novateurs et qu'il s'agit de pouvoir réguler. En tout cas, il faut accompagner des clients avec des réglementations qui, elles, évoluent soit très rapidement, soit n'évoluent pas. Donc, en fait, c'est un peu le bazar. L'IA, toutes ces techs-là ont une réglementation qui n'est pas forcément très facile à gérer, mais moi, c'est ce qui me passionnait. Ça change tout le temps, les demandes sont tout le temps différentes. Donc voilà, je commence ma carrière en tant qu'avocate, enfin, chez Baker McKenzie, et j'y suis pendant 3 ans.
Ouais, c'est une réglementation qui est hyper récente, qui évolue tous les mois, toutes les semaines, potentiellement.
Ah, ça évolue...
tous les jours, peut-être.
Ça dépend des sujets, tu vois, mais par exemple, sur la question de la gestion des contenus en ligne ou sur la gestion des publications discriminantes ou haineuses, bon, ça, c'est de la réglementation qui est arrivée un peu sur le tas, mais l'IA, on va juste à peine avoir une réglementation en Europe qui va venir gérer les modèles d'IA, alors qu'ils soient, par exemple, ceux d'OpenAI ou de Mistral AI, mais aussi toi, en tant qu'entreprise, quand tu intègres des modèles d'IA dans ta plateforme pour la pimper un peu, pour la booster, toi, c'est quoi ta responsabilité? Voilà,
etc.
Exactement. Donc, toute cette réglementation-là, elle arrive à peine sur le marché européen. Sachant que les États-Unis et la Chine commencent également à la réglementer, mais sont deux marchés différents parce que eux ils ont la tech. Donc nous on arrive avec un récit national avec des exigences, des réglementations sans avoir finalement un gros écosystème géré d'IA en Europe. Bon, c'est comment est-ce que tu accompagnes des boîtes qui elles veulent se lancer en Europe avec une réglementation qui potentiellement va les restreindre? Comment est-ce que tu les voilà, comment est-ce que tu les accompagnes? Ça je le fais chez Palantir Technologies parce que je ne suis plus chez Becker, mais voilà, c'est des sujets passionnants. Moi ça j'adore.
Ouais, ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement ce sont les fondations du droit dédié à l'intelligence artificielle.
C'est ça, exactement. Donc,
il n'y avait rien qui existait.
Il y avait, en fait, ça existait, mais pas en tant que réglementation appliquée à l'IA. Donc, tu vois, l'IA, finalement, c'est de gros algorithmes super puissants qui vont réaliser des process de manière automatique. Mais on n'a pas encore atteint le stade d'automatisation 5 sur 5 avec une machine qui se fait passer pour un humain. Donc, on arrivait quand même à réglementer l'IA en passant par le droit de la propriété intellectuelle, en passant par d'autres réglementations qui, elles, existent, qui sont applicables aux bases de données, qui sont applicables aux logiciels. Là, aujourd'hui, la question, c'est puisqu'on va atteindre un niveau d'automatisation presque 100% automatique bientôt, comment est-ce que tu réglementes la responsabilité en cas de problème? Comment est-ce que tu réglementes la propriété intellectuelle pour ceux qui auront créé quelque chose et qui vont... Enfin, je sais pas, toi, en tant qu'entreprise, si tu te sers d'un output, est-ce que ça devient le tien ou pas? Ce genre de choses, il faut maintenant une réglementation sur l'IA et elle arrive sur le marché. Voilà.
Surtout que la problématique potentielle et actuelle de l'IA, c'est qu'elle est aujourd'hui de plus en plus accessible,
ouais,
au grand public, et qu'en fait aujourd'hui on a des outils hyper accessibles de clonage vidéo, de clonage de voix. Tu vois, il y a quelques semaines j'ai testé de cloner ma voix, ça fonctionne extrêmement bien, c'est-à-dire que n'importe qui peut complètement cloner ma tête et ma voix et créer des contenus avec ma tête et ma voix.
Ouais.
Donc c'est clair que c'est un sujet, j'imagine, colossal.
En fait, si tu veux, l'IA, ou en tout cas les modèles d'IA, ils ont toujours, ça fait 5-6 ans qu'ils sont accessibles, je pense, aux entreprises. La vraie révolution pour moi, ça a été l'ouverture au grand public.
Exactement.
Des modèles, par exemple, d'OpenAI, tu vois, en 2022. Et le rendre accessible aux consommateurs. Donc ça, c'est pour moi la nouvelle révolution. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut se servir d'un modèle d'IA et en fonction de l'input, en sortir quelque chose qui va l'intéresser ou lui servir dans la vie quotidienne, professionnelle et personnelle. Et ça, c'est une vraie révolution.
Ouais.
Ça crée des risques également. Ça crée des risques pour l'utilisateur, ça crée des risques pour notre démocratie quand même en matière de désinformation. Il faut pouvoir venir réglementer ces usages-là.
Ouais, c'était Yann Lequin, le head of AI de Meta, qui disait que effectivement l'accès au grand public, enfin d'OpenAI notamment, c'était des technos qui étaient déjà disponibles depuis 10-15 ans.
Mais c'est ça.
Pour les...
Ah, peut-être moins efficaces quand même que ce qu'elles sont aujourd'hui,
moins
vu qu'elles sont fine-tunées, entraînées.
Ouais,
mais...
bien sûr.
Mais oui.
Mais en tout cas, la première version de ChatGPT qui est sortie au grand public, c'était quelque chose de dispo
beaucoup
déjà depuis un moment.
Ancien.
Après, ils ont accéléré très vite, mais j'imagine parce que c'était entraîné de plus en plus par des millions de personnes, donc forcément, c'est allé plus vite. Hyper intéressant, et du coup, ça doit être très passionnant, tu vois, d'évoluer sur ce métier, sur cet axe du droit qui est hyper important. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Je sais que tu rejoins Monsieur Jacques Attali début 2021. En tant que Head of Commission. Qu'est-ce que c'est, Head
non,
of Commission?
C'est ça. Alors,
est-ce que tu peux
je suis encore chez Baker McKenzie quand je fais la rencontre de Jacques Attali. Et en échangeant, on se rend compte, on se dit que finalement, on est en 2021. Donc, tu as une grosse élection présidentielle qui se prépare. Et on a quelques candidats qui commencent à se déclarer. Mais en fait, ces candidats-là, ils n'ont pas de programme. Donc, en fait, ils arrivent sur le terrain, ils arrivent devant les médias, ils arrivent devant le public, les citoyens français, nos compatriotes. Ils disent, moi, je me porte candidat, mais je n'ai pas de programme. Et en échangeant avec Jacques Attali, qui, lui, a fait des dizaines de programmes présidentiels dans sa vie, on se dit, bon... on va pallier ce manque et on va faire notre propre programme présidentiel idéal, apartisan, en menant, si tu veux, des travaux, en réunissant des rapporteurs autour de nous, des rapporteurs capés, donc qui sont issus de la société civile, mais aussi des politiques, des fonctionnaires, enfin, des gens de la société qui vont venir réfléchir sur différentes thématiques qui font la société française. Donc, ça allait de la jeunesse, l'éducation, la transition climatique, enfin, environnementale, la tech, la santé, l'économie, enfin, toutes les thématiques, finalement, d'un programme présidentiel. Et on se dit qu'on va travailler ensemble et qu'on va faire notre programme. Donc, moi, je crée cette commission-là avec Jacques Attali. je deviens la rapporteure générale. Donc, moi, si tu veux, je chapote, je coordonne cette commission-là, les travaux, pour publier un programme présidentiel, après qu'on va résumer dans un livre. Mais sur la... Si tu veux, l'activité de la commission, moi, je suis vraiment au cœur du processus avec nos rapporteurs qui conduisent des auditions. On a conduit plus de 400 auditions avec des spécialistes, des personnalités engagées dans la société civile, des experts, pour en fait sortir des constats. Voilà ce qui ne va pas bien en France et proposer des réformes. Voilà ce qui va permettre en fait d'améliorer les choses.
Du coup, cette commission, in fine, s'appelle France Positive. Qui est créé justement dans la continuité de tout ça. Vous sortez aussi un livre qui est « Faire réussir la France, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes ».
Humblement intitulé « Faire réussir la France ».
Ce qui est un challenge comme un autre, hein, finalement. Et donc, dans lequel, j'imagine, vous intégrez justement des réformes qui peuvent inspirer les candidats de l'élection de 2022.
C'est ça, exactement. Nous, on va, si tu veux, résumer dans un ouvrage pour le grand public les principales réformes qu'on avait introduites dans ce programme présidentiel à partisans que nous avons présenté à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Donc, c'est vraiment une série de mesures basées sur des constats très forts qui visent à améliorer la société française, à améliorer le quotidien des Français, ce qui devrait être en fait le programme d'un président. Tu vois, si par exemple, ça, c'était vraiment des mesures très variées, on avait l'inclusion des 30 minutes de sport par jour à l'école, parce que le sport, c'est hyper important pour la santé des Français. Ça permet également de réduire les coûts, parce qu'à partir du moment où tu investis dans la prévention, tu as moins à dépenser dans les soins. Donc ça, c'est une mesure, par exemple, qui a été reprise par le président actuel. Mais on a également des mesures qui n'ont pas été reprises et qui sont pourtant clés pour améliorer la société française. Si on pense, par exemple, à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, c'est une catastrophe en France. Tu as un Français sur quatre qui a été à l'aide sociale en France qui finit SDF. On a des réponses clés à apporter, on continue de les pousser, on continue de les porter, mais ça n'a pas été encore appliqué. Donc voilà. Nous, on résume toutes ces propositions-là dans un livre qu'on publie effectivement aux éditions Fayard et qui s'appelle « Faire réussir la France ».
Comment est-ce que vous avez créé ces mesures ? Est-ce que c'est co-écrit justement avec Jacques Attali ?
Alors, c'est co-écrit avec Jacques Attali.
Est-ce que j'imagine
c'est co-écrit avec tous les rapporteurs.
Voilà,
donc en fait, cette commission-là, si tu veux, c'est vraiment l'équivalent d'un petit gouvernement. On avait 30 rapporteurs qui chacun était spécialisé dans un domaine particulier. Par exemple, Aude Kerrivel sur l'éducation. J'avais des rapporteurs sur la transition écologique, sur les questions économiques. Vraiment toutes les thématiques qui font un programme présidentiel. Et ces 30 rapporteurs-là ont conduit des auditions de leur côté. On a aussi fait des auditions en assemblée plénière, c'est-à-dire que deux fois par semaine, on se réunissait en visioconférence pour auditionner quelqu'un. Donc, par exemple, Nicolas Hulot sur l'écologie, Laurence Subiana également, Tony Estanguet sur le sport, pour comprendre un peu quelles étaient leurs positions sur la société française dans leur domaine, quels étaient les constats et selon eux, quelles étaient les choses à améliorer. Alors là, je t'ai nommé des personnalités politiques ou en tout cas publiques, mais on est vraiment allé au contact des Français, des citoyens, pour recueillir leur retour. On a également été au contact des ONG, des associations, toutes ces personnes en fait qui ont un impact sur le terrain, pour recueillir leurs propos et partir vraiment du terrain, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, la politique, elle a un intérêt, c'est simplement de changer la vie des Français. Et je pense qu'il faut garder ce cap-là. Et nous, de manière apartisane, on avait des gens de gauche, des gens de droite, peu importe. On a vraiment travaillé ensemble pour se dire, voilà, qu'est-ce qui va pas en France et comment est-ce qu'on essaie d'améliorer les choses.
Ouais, donc ça c'était vraiment les premiers mois et
c'est ça.
Les débuts de France Positive.
Ouais.
Aujourd'hui, du coup, les objectifs et la trajectoire, j'imagine que c'est 2027.
C'est ça. Les objectifs ont changé. Les objectifs ont changé parce qu'on veut être beaucoup plus médiatique. C'est-à-dire qu'il faut faire, mais ça ne sert à rien de faire si tu ne fais pas savoir. Et aujourd'hui, pour pouvoir pousser nos politiques à adopter des vraies mesures concrètes qui vont changer la vie des Français, je pense qu'on a besoin d'un soutien citoyen. On a besoin d'impliquer la population française derrière ces propositions-là. Donc là, on a un premier objectif qui est de devenir un peu plus public pour impliquer l'ensemble des citoyens, écouter leur retour aussi. Moi, je reçois toujours des petits messages en me disant moi, je pense qu'il faudrait ajouter ça ou créer cette convention citoyenne. Pourquoi est-ce que vous parlez pas de santé mentale, par exemple ? J'ai reçu ces retours-là qui sont extrêmement pertinents et clés, je pense aussi, pour après avoir ce soutien-là et aller pousser ces réformes auprès des personnalités politiques. On a également cet objectif sur le long terme qui est 2027, parce qu'il y a un véritable risque. Bon, il y a déjà 2024, soyons clairs, avec les élections européennes. Nous, on a des propositions fortes sur l'Europe parce qu'on est à un moment de bascule calcul qui est complètement binaire. Soit l'Europe devient puissante et s'oppose, si tu veux, au tyran du monde du type Poutine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une Europe qui soit protectrice, qui se réindustrialise, qui pense à l'armement, qui soit aussi protectrice sur les questions de santé, sur les questions d'écologie, sur les questions de pouvoir d'achat. Soit on a une Europe qui bascule et qui se renferme dans un programme typiquement du Rassemblement national, qui, moi, est la limite vraiment à ne pas franchir, parce qu'en fait, ce serait détruire l'Europe de l'intérieur. Et aujourd'hui, bah, le Rassemblement national, il est tout en haut des sondages. Donc nous, l'idée, c'est avec France Positive, d'ici à 2024, d'ici au 9 juin, en fait, essayer là, dans les prochains mois, de pousser des idées, de montrer en fait un récit alternatif optimiste et crédible pour montrer aux Français, bah, renseignez-vous sur les programmes, lisez, ne soyez pas dupes, ne soyez pas manipulés également, parce qu'il ne suffit pas de dire l'immigration et la sécurité, c'est mal, pour que ça change votre quotidien. Okay, bon, alors évidemment, ça nécessite que les partis de gauche et de droite proposent également des choses, mais en tout cas, on veut alerter sur ces risques-là. Et pour finir, bah, voilà, comme tu le disais, 2027, commencer à travailler. Nous, on travaille beaucoup sur le fond. On ouvre aussi nos travaux, par exemple, par des tables rondes, des colloques. Donc là, il y en a un prochain qui arrive sur la transition écologique et énergétique avec des intervenants formidables, président du GIEC, enfin des engagés aussi associatifs sur ces questions-là, des militants. Et l'idée, c'est d'ouvrir ces questions-là, d'ouvrir ces débats-là au grand public pour les intéresser. Parce qu'en fait, il n'y a qu'en intéressant les Français qu'on va avoir ces Français-là dans les urnes. Et il faut les intéresser sur les sujets qui vont changer leur quotidien. Pas leur faire peur constamment, comme on peut avoir sur certains plateaux ou avec certaines lignes politiques, typiquement le Rassemblement national.
Comment est-ce qu'on peut contribuer et soutenir justement une association comme France Positive ?
Alors, bah, nous, on recrée notre commission. Là, on est en train de recréer des postes de rapporteurs, des postes, si tu veux, de chercheurs, de militants. Il y a vraiment plein de choses à faire avec France Positive. On a plusieurs pôles. Le pôle idée, donc, qui travaille sur le fond avec des spécialistes, ce dont je t'ai expliqué. Mais on a aussi un pôle maintenant comme événementiel. Nous, on part de zéro. On a tout à recréer. Et tout est des bonnes à prendre. Là, ce matin, j'étais, par exemple, avec un jeune à Marseille qui a 2 millions d'abonnés sur un compte. Il m'a dit, votre compte, il n'est pas assez public. Vous faites des choses trop bien, j'ai trop envie de vous aider. Et ben là, je l'ai mis dans les bookcom et en fait, il va nous aider, tu vois. L'idée, c'est d'aller mobiliser les gens, de pousser nos réformes. Et puis d'ici à 2027, pour tous ceux qui seraient intéressés sur le fond, qui seraient angoissés finalement par l'absence de fonds, d'idées, de programmes, bah, rejoignez-nous et on travaille ensemble. Nous, on implique tout le monde. Toutes les bonnes volontés.
On pourra mettre le bon lien en description, justement pour rejoindre France Positive.
Exactement.
Il me reste deux petites parties pour le podcast.
Ok, trop bien.
Ma première question, c'est de savoir, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ? Et là, je parle de ton aventure chez France Positive.
J'ai envie de
dire, il y en a plein, mais est-ce que tu peux
La rencontre clé, c'est quand même Jacques Attali.
Ouais.
C'est quand même Jacques Attali parce que il m'a donné ma chance. Et en fait, c'est un peu, ça revient sur ce qu'on s'est dit, on a besoin d'avoir quelqu'un qui croit en nous à un moment donné dans sa vie. Et Jacques Attali a cru en moi dès le départ. Je pense qu'on a bien débattu, on a bien échangé, mais en fait, il m'a fait confiance. Il m'a donné carte blanche pour créer une commission, créer un programme avec lui, aller le pousser. Et encore aujourd'hui, il me fait énormément confiance. Et pour moi, ça a été à la fois une aventure amicale folle, parce que c'est bénéficier de son savoir, de ses rencontres. Il est vraiment dans la transmission. Et ça a été également, personnellement, je pense, effectivement, très, très enrichissant de juste pouvoir côtoyer quelqu'un qui a fait autant pour la France.
Ouais.
J'en suis très, très fière et très reconnaissante.
Oui, c'est clair qu'il a une expérience en politique assez conséquente.
Exactement.
Qu'il a conseillé beaucoup de présidents de la République.
Il fait beaucoup sur le terrain et je pense qu'il gagnerait à être connu sur ces questions-là. Par exemple, moi, sur des sujets qui m'importent, l'entrepreneuriat, justement, dans les territoires fragilisés comme en banlieue, avec Positive, ce qu'ils font, c'est absolument incroyable. C'est accompagner des entrepreneurs qui n'auraient pas les réseaux, qui n'auraient pas les codes et leur permettre finalement de devenir autonomes. Bah, ça, il n'est pas forcément connu pour ça, mais il le fait au quotidien. C'est une de ses activités principales. Et je trouve qu'il est au-delà du personnage qui, moi, me fascine sur tant d'aspects, je dirais, professionnels et voilà, tout simplement de connaissances. Il est aussi très inspirant parce que très engagé. Il a toujours à cœur d'avoir de l'impact.
Ouais.
Et ça a été pour moi, il a la niaque encore. Il a envie de faire changer les choses. Il a envie vraiment de contribuer pour que la société française aille mieux. Et j'ai rarement vu chez quelqu'un cette passion décorrélée de tout sentiment de pouvoir.
Ouais.
Et pour moi, je trouve ça très sain. C'est très sain pour moi d'apprendre avec quelqu'un qui a juste envie de faire bien et de changer les choses. Et voilà, je lui en suis très reconnaissante.
Ça, c'est très précieux.
Ouais.
C'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre ?
Justement, avoir de l'impact. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est qu'un statut. C'est-à-dire que c'est un peu comme le statut de salarié. Ça veut un peu tout et rien dire. C'est entreprendre dans quoi ? C'est entreprendre pourquoi faire ? Et d'ailleurs, c'est une discussion intéressante. Je vous le recommande. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà sur ce podcast-là. Je suis peut-être à côté de la plaque. Mais Guillaume Bénèche de Audace, qui est une entreprise je ne manquerai également. On en discutait et en fait, l'entrepreneuriat n'a vocation qu'à créer quelque chose. Donc moi, l'entrepreneur, il va pour moi être valorisé s'il a un impact positif, s'il a vraiment de la création de valeur, de la création soit de valeur pour le grand public, soit pour la France. Enfin, l'idée, c'est de voir un peu ce que tu crées. C'est,
ouais. Bien sûr. Puis l'impact, il peut être social, sociétal, environnemental, ouais. Global, enfin... Effectivement, ouais, derrière le mot impact, on peut mettre pas mal
puis,
de choses.
Voilà, tout comme derrière le mot entrepreneur, tu peux être entrepreneur de tout et n'importe quoi. Donc moi, je valorise vraiment les entrepreneurs qui ont cette volonté de créer cette vision pour avoir un impact sur quelque chose de déterminé et qui, idéalement, contribue quand même au bien commun.
Ouais, exactement. Comment est-ce que ton entourage vit ton aventure au sein de France Positive ?
Alors, mon entourage, ils sont à la fois hyper encourageants, hyper positifs et à la fois hyper inquiets parce qu'en fait, comme je te le disais, moi, si tu veux, on a pour objectif de devenir un peu plus médiatique. Mais avec la médiatisation, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout encore il y a 3 mois parce qu'on a un peu quand même, on est quand même un peu intervenu dans les premières propositions avec le premier programme dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on voilà, on a essayé de faire connaître nos propositions, mais on avait quand même vocation à aller pitcher nos propositions aux candidats à l'élection présidentielle. Donc la médiatisation n'était pas la même. Là, au fur et à mesure, je commence un tout petit peu à faire des plateaux, à m'exprimer un peu plus en public. Mes proches sont à la fois super contents, mais en même temps très inquiets des retours parfois que je reçois et comme beaucoup d'autres les reçoivent. D'ailleurs, de manière beaucoup plus intense au fur et à mesure que toi, ta popularité ou ta médiatisation augmente. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à gérer. Ils sont très protecteurs. Donc, moi, c'est à la fois très encourageant parce que je suis très contente de les avoir derrière moi. Et en même temps, c'est aussi ce petit cocon-là de me dire, bon, en fait, effectivement, c'est pas normal d'accepter la haine en ligne. C'est pas normal de recevoir autant de commentaires potentiellement déplacés. Ça me permet d'avoir cet ancrage-là dont j'ai besoin.
Ouais, c'est la problématique de plus on est exposé, surtout sur des sujets politiques.
Exactement. Et autant politique, c'est-à-dire que nous, on intervient vraiment en tant qu'experts à partisans. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller pouvoir parler à tous les Français. Et on l'a vu quand on a présenté notre programme présidentiel. À partir du moment où tu présentes une idée de gauche à quelqu'un de droite ou une idée de droite à quelqu'un de gauche, ça ne marche pas par principe, même si l'idée est bonne et peut vraiment changer la vie des Français, il y a toujours cette barrière politique-là. Donc nous, notre orientation, elle est vraiment d'être expert. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste, on fait tout pour être le plus objectif possible, apartisan. Alors, j'irais plutôt transpartisan plus qu'apartisan, parce que forcément, ce sont des sujets qui touchent la société française et qui vont avoir un impact politique. Mais oui, effectivement, à partir du moment où tu deviens un peu plus...
Bien sûr.
Voilà, positionné sur des enjeux de société, en tout cas, tu t'exposes à... toute cette colère, toute cette passion qui est légitime mais qui ne devrait pas s'exprimer dans ces proportions-là. Et c'est en tout cas quelque chose contre quoi j'essaie de lutter à ma petite échelle en rappelant aux Français, non, ce n'est pas normal d'accepter ce niveau de haine. Voilà.
Mais je pense que le côté...
Peut-être naïvement, mais...
Je pense que le côté transpartisan, il est peut-être très mal compris du grand public. Et qu'en fait, à travers leurs yeux, potentiellement, ils vont penser que tout le monde est encarté, tout le monde a des idées soit de gauche, soit de droite. Et du coup, ils se positionnent aussi de cette manière. Je pense que le côté transpartisan en France n'est encore pas forcément très compris.
Ouais, c'est vrai, parce qu'on a une grosse polarisation aussi de la société en ce moment, qui est en plus, mine de rien, augmentée par les algorithmes, les réseaux sociaux. C'est ça qui marche, tu vois. C'est le débat polarisé, déconnecté. Alors qu'en fait, tu peux... moi, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'on peut tout à fait débattre et échanger. Et ça peut être sexy d'échanger, même si tu ne t'énerves pas et tu n'es pas dans une polarisation excessive. Et l'idée, c'est de replacer le curseur vers là. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de réintéresser les Français, leur montrer qu'il y a une voie qui est possible, crédible, alternative, optimiste et qui n'a pas besoin de ce niveau de confrontation-là. C'est parler à tout le monde, tu vois.
C'est tout l'intérêt d'une démocratie, de pouvoir échanger sur n'importe quel sujet.
On le voit.
Même si on n'est pas forcément d'accord sur telle ou telle chose.
Et on voit qu'échanger et débattre, ça peut avoir de vraies conséquences positives. Là, par exemple, si on prend hier ou avant-hier le cas de l'IVG, quand tu vois que le débat était extrêmement polarisé au début... Bon, bah, par le travail des féministes et des militants, par le travail des associations, des politiques de tous bords, on est parvenu quand même à les convaincre des sénateurs qui, jusqu'à présent, étaient farouchement opposés à l'inscription de cette liberté dans la Constitution, par le dialogue. Et c'est très, moi, je trouve ça très touchant d'entendre des sénateurs qui nous disent bah, « Moi, j'ai dialogué avec ma fille, j'ai dialogué avec ma femme. » Et en fait... je comprends vos revendications et j'accepte de changer de position là. Mais ça s'est fait que par le dialogue. Et ça s'est fait par un dialogue, je pense, extrêmement bien mené par toutes les femmes politiques finalement, et les hommes qui ont soutenu aussi cette cause-là, un débat le plus dépolarisé possible. Voilà. Et ouais, on voit que l'opinion publique a aussi un impact. Quand tu as 86% des Français qui étaient pour l'inscription, tu sens qu'il y a un vrai impact et qu'ils sont aussi un peu obligés, tu vois, les représentants politiques. Et c'est pour ça que nous, on essaye d'aller mobiliser maintenant les citoyens, parce qu'en fait, on a besoin de leur force aussi pour faire changer les choses. Il faut qu'ils soient investis dans les urnes, mais également investis sur le terrain pour pousser des vraies réformes.
Ouais, c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, il y a 4 à 8 semaines, les sénateurs
étaient pas partants, hein.
Plutôt contre.
Exactement.
Effectivement, je pense que, outre l'opinion publique, leur entourage a joué. Effectivement, l'intervention de femmes et d'hommes politiques, finalement, qui étaient pour, ça a joué. Et c'est clair que cette évolution...
Mais notre démocratie fonctionne, tu vois.
Cette évolution rapide s'est jouée sur le côté débat, en fait.
Exactement.
S'il n'y avait pas eu de débat, ça aurait été voté contre il y a 4 semaines et ça aurait été...
Et je trouve que c'est un super signe pour notre démocratie, c'est-à-dire qu'on peut encore changer les choses. On peut encore, malgré la polarisation de la société, s'accorder sur des enjeux clés. Alors maintenant, c'est quel est le niveau de granularité ? Parce qu'effectivement, quand tu as un droit fondamental comme celui-ci, tu peux potentiellement t'attendre à ce qu'on trouve un accord au bout du compte. Mais comment est-ce qu'après, malgré la polarisation, tu arrives à t'accorder sur des niveaux de granularité un peu inférieurs ? Bon, mais il faut débattre. Il faut vraiment débattre. Il faut accepter de parler de tout à tout le monde, surtout aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire.
Très clair. Ma dernière question pour cette partie, c'est de savoir comment est-ce que tu relis le pro et le perso.
Forcément, je pense que moi, mon investissement professionnel est très lié à mes engagements personnels. C'est-à-dire que pour trouver la niaque, la motivation de faire tout ça, il faut forcément que je sois convaincue que mes activités vont avoir un impact. Alors, professionnellement, avec par exemple Palantir, au regard des dossiers qu'on défend, je sais qu'on a un vrai impact au quotidien et ça me motive à me lever tous les matins et à travailler aussi intensément. Personnellement, mes engagements politiques, mes passions politiques, mes croyances, mes opinions vont venir alimenter aussi ce besoin-là de faire évoluer la société, tu vois. Je peux pas me réjouir le matin quand je sais qu'il y a encore des gens qui dorment dans la rue, quand je sais qu'il y a encore des enfants qui mangent pas avant de faire leurs devoirs. Ça, c'est des vraies convictions qui m'animent et je te le dis vraiment sincèrement, qui me donnent envie de faire évoluer la société, d'attirer l'attention sur ces thématiques-là. Je t'ai parlé d'aide sociale à l'enfance tout à l'heure, c'est absolument indécent ce qui se passe en France. Et en fait, il faut pouvoir mettre un projecteur sur ces questions-là, animer les Français, leur donner du fond, en fait, parce que l'actualité, les clashs, si tu veux, c'est pas ça qui fera avancer la société. Il faut vraiment pouvoir les convaincre qu'il y a un autre modèle possible. Et ça m'anime perso, pro, tout, quoi.
Tout est connecté.
Tout est connecté.
On va pouvoir passer à la dernière partie de notre conversation avec quelques petites questions rapides.
Okay.
Évidemment, tu as le temps d'y répondre. Quand je dis rapide, c'est qu'elles sont courtes. C'est tout. Mais les réponses ne sont pas forcément rapides. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Je parle beaucoup, je me plains, je communique. Et moi, ça m'aide à aller mieux. J'ai besoin d'autrui, en fait. J'ai besoin d'être recentrée. Mais en fait, pour se recentrer, il faut passer par les autres. Donc, si je suis en colère, j'ai besoin de communiquer ma colère pour comprendre qu'en fait, il faut que je prenne du recul. Et que ça aille mieux. Si je suis contente, j'ai besoin de... Tu sais, mais tu peux être content et pas forcément aller bien. Il faut... Moi, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de parler, ouais. Ça se voit d'ailleurs, je pense, aujourd'hui.
D'extérioriser,
exactement. Et j'ai besoin de mon clan. Donc, c'est mes amis très proches, j'ai besoin de ça.
C'est hyper important.
Ouais.
C'est quoi ton plus grand rêve ? Exactement, les vrais, que les vrais. C'est quoi ton plus grand rêve ?
Le grand rêve, c'est que mes futurs enfants vivent dans une société 1000 fois meilleure que la mienne.
C'est quoi ta plus grande peur ?
C'est que mes futurs enfants vivent dans une société invivable parce que la planète va mal, parce que la guerre existe. Ça, c'est une des questions pour... enfin une des raisons pour lesquelles je me pose la question d'avoir des enfants. C'est ouais.
Est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Oh, mais ça c'est la pire question, j'en ai à part, tellement. Non, j'en ai. Ça dépend, c'est un roman un de mes romans préférés c'est Aurélien d'Aragon, je sais pas si c'est un sentimental mais ça
peut m'arriver.
Ça pose les questions d'amour, la difficulté, la complexité de s'aimer dans ce monde, ça peut être L'Armée des Ombres de Kessel sur l'engagement français. Tu vois, quand Emmanuel Macron dit on va envoyer potentiellement des gens en Ukraine, est-ce que les Français aujourd'hui seraient capables de défendre leur pays coûte que coûte? Bah, Kessel, L'Armée des Ombres, ça peut être... Moi, j'ai besoin de poésie pour vivre. On vit dans un monde tellement brutal et tellement moche. Bah, j'ai besoin de lire, je sais pas, Anna de Noailles, qui est trop sous-coutée, mais il faut la lire... Éluard, Patti Smith, enfin Baudelaire. Et puis, je sais pas, c'est des essais, La cause des femmes de Gisèle Halimi. Enfin, il y a plein de...
On mettra là, toutes voilà, les...
Je préfère un podcast de littérature. Ouais, j'adore lire. Il faut c'est lire. Clair. Il faut lire. Très important de lire pour s'évader.
On mettra justement tes recos en description.
Ah bah, je t'en envoie une liste.
Bah, carrément,
une
carrément, tu peux m'envoyer ça sur WhatsApp, comme ça je les intègre. On va dire une liste de tes 10 livres qui t'ont le plus marqué potentiellement.
Ouais, okay,
sur différentes thématiques. Tu vois, comme ça fera une petite bibliothèque pour les auditeurs du podcast.
J'adore partager mes lectures.
Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
Bah, écoute, Le Cercle des Poètes Disparus, parce que ça... Alors, d'une part, ça se joue en ce moment au Théâtre Saint-Antoine, donc c'est une adaptation théâtrale de ce roman, puis cette adaptation cinématographique. C'est une vraie ode à la liberté, à la transmission, c'est l'impact justement du professeur sur des jeunes. C'est une ode aussi à la poésie, c'est d'une beauté sans fin, enfin... C'est un personnage, un prof absolument... Moi, il y a un passage qui m'a marqué où il dit « En fait, on n'écrit pas de la poésie, on lit pas de la poésie juste parce que c'est joli. On la vit parce qu'on veut s'inscrire dans l'humanité, parce qu'on a besoin de ces passions-là. » Tu vois, c'est comme le commerce, l'avocature, la finance, c'est bien beau parce qu'il faut exister, mais c'est pas ça qui va te faire vibrer. Et en fait, t'as besoin de beauté, t'as besoin d'amour, t'as besoin de poésie. Et en fait, ça m'a décomplexé sur le fait que j'avais besoin de lire de la poésie, tu vois, juste le dimanche... les lire même à voix haute, j'en avais rien à faire. Ouais. J'ai besoin de beauté. Ce film-là, Le Cercle des Poètes Disparus, est incroyable pour ça.
Ok. Bah,
plein de passion.
Ouais, bien sûr. T'aurais pu aussi, du coup, répondre ça. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux, le côté poésie?
Ah ouais, je lis beaucoup.
Et lecture, évidemment.
Ouais. J'ai envie de te dire je fais du sport, mais c'est pas vrai, je fais un peu de pilates, mais c'est pas ça qui m'aide à aller mieux. J'aime bien faire juste un bon moment avec des potes, quoi.
Bon, on intégrera tout ça en reco. Il me reste trois petites questions. Et la première, c'est la question Rivers, que j'ai rajoutée l'année dernière. Tu prends le rôle de host du podcast.
Oh là là !
Une seule question, faut pas déconner.
Non, j'en avais deux.
Y a-t-il une question que tu aimerais me poser, justement ?
C'est quoi ton prochain podcast ?
J'aimerais bien créer un podcast sur des gens qui sont sortis un peu des sentiers battus. Mais qui sont pas forcément entrepreneurs. Ce que je commence déjà à faire sur Serial, en réalité. Sauf que le nom Serial Entrepreneur est peut-être moins adapté. Mais c'est vraiment le côté de pouvoir toucher aussi bien des artistes, des personnalités publiques, des sportifs, en fait des gens qui ont fait des trucs dans leur vie, des trucs cool. Et donc si je devais créer un autre podcast, ce serait ça, mais je pense que je vais plutôt transformer Serial, et je transforme Serial déjà depuis quelques mois sur cet axe-là. Parce qu'en fait, on se rend compte que il n'y a pas que l'entrepreneuriat qui est hyper passionnant, hyper intéressant. C'est plutôt des parcours de vie, des parcours humains, tu vois, qui moi personnellement m'intéressent. Et c'est en fait à travers ça que j'ai envie de creuser mes discussions. Outre le côté business qui est intéressant, mais qui moi me drive pas en numéro un sur mes échanges, comme tu as pu le remarquer sur notre conversation. Donc pas de nouveau podcast, mais plutôt une trajectoire qui continue d'évoluer sur Serial. Tu feras peut-être changer de nom.
Tu fais bien.
Exactement. Est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ?
Alors, puisqu'on en a parlé, Guillaume Bénèche d'Audace, mais je pense aussi à Ariel Schwab, qui est incroyable chez Havas. Vraiment une pépite engagée, brillante. Trop bien.
Ok, je me le note. Et la dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ?
Bah, c'est ce que je te dis. Pour moi, ça veut rien dire à partir du moment où c'est pas accolé à quelque chose. Parce que pour moi, c'est un statut. Donc, c'est un entrepreneur de quoi ? C'est quelqu'un qui crée, qui va avoir une vision, qui va avoir la volonté de faire émerger un projet, ça c'est sûr. Mais moi, je demande à voir entrepreneur de quoi ?
Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Julie.
Merci à toi, c'était super sympa.
J'espère que ça t'a plu.
Ouais, on a eu chaud là.
On a eu bien. Un peu chaud. Je pense que ça se ressentira sur la vidéo. Merci beaucoup à toi qui nous a regardé et écouté sur cet épisode. Merci au Soli de nous avoir accueillis pour cette conversation. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et on mettra évidemment tous les liens en description de Julie et de France Positive. Salut.